retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Rebonjour et bienvenue ensemble à Radio Vogue. Et c'est le début de l'après-midi, on a toujours comme d'habitude des invités et l'invité de début de l'après-midi c'est donc Monsieur Delinger et il va se présenter déjà, c'est quoi sa fonction dans l'établissement ou donc à l'extérieur de l'établissement. Bonjour Monsieur Delinger.
Bonjour. Voilà.
Je suis donc Monsieur Delinger, j'interviens au lycée Henri Vogt en tant que psychologue d'éducation nationale, ce qu'on appelle les PSI-EN, qui ont remplacé donc les COP qui étaient en place jusqu'à l'année dernière, donc conseiller d'orientation psychologue.
Et pourquoi ce changement ?
C'est plus une démarche administrative, c'est parce qu'ils ont regroupé le corps des psychologues du premier degré avec le corps des psychologues du second degré pour que ça fasse plus qu'une seule entité.
Et donc, déjà, tu es le seul ici ou...
Ici, on est à deux à intervenir. En termes d'effectifs, il y a énormément d'élèves. Du coup, il y a ma collègue qui intervient sur la section générale et sur la section technologique. Et moi, du coup, j'ai en charge la section professionnelle qui va donc des CAP au bac pro. Donc, de la seconde, première et terminale. Et CAP, première année et deuxième année.
Ben, c'est pour ça. Donc,
et les troisièmes prépa pro.
Voilà, pro. Parce que donc, j'étais invité parce que cette année, donc, la radio donc, est consacrée à la voie professionnelle.
Okay.
Voilà, c'est pour ça. Donc, c'est pour parler vraiment au niveau de fonctionnement. Et avant de rentrer dans vraiment le sujet, c'est comment devenir psychologue d'orientation.
Alors, je ne sais pas si je connais le parcours type de la formation.
Non. Personnellement, on parle maintenant. Voilà, toi.
Comment moi je suis arrivé dans ce métier. J'ai fini mes études l'année dernière. J'ai eu un master de psychologie. Et pour être affecté à la fonction-là, il faut au moins un master de psychologie. Depuis quelques années, ils ont changé les conditions d'accès. Avant, il fallait juste une licence. À la base, j'avais postulé dans l'éducation nationale puisque je cherchais à être psy du premier degré. Là, c'était plus proche de mes connaissances et de mes savoir-faire en termes de tests psychométriques et d'accompagnement avec des enfants dans des situations plus compliquées. Et on m'a dit qu'il n'y avait pas de poste. Par contre, il y avait des postes à pourvoir dans le second degré. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être une très bonne expérience. Ce n'est pas forcément ce que je voulais, mais il faut accepter aussi que ça puisse changer. Mmh. Et je me suis dit, on est parti pour un an et puis on va voir ce qu'on peut faire. Après, c'est une démarche un peu plus poussée, c'est que mon objectif à moi, c'est de devenir thérapeute familial. Et je me suis dit qu'en travaillant dans l'éducation nationale, c'est une façon aussi d'accompagner des adolescents et des familles dans des situations qui ne sont pas toujours simples, dans des contextes un petit peu particuliers par moment, et que ça me permet d'avoir une première expérience qui est peut-être moins compliquée que pour être une expérience en institution ou en milieu hospitalier, par exemple.
D'accord, donc ce parcours-là, c'était depuis longtemps, tu pensais être vraiment psycho-orientation ou c'était seulement au dernier moment, après
non,
le bac?
Non, c'est même pas après le bac, c'est après le master.
Après le master, c'est surprenant.
Oui, ça s'est joué très très tard.
Pourquoi? C'est ce choix-là comme ça ou c'était par donc, des connaissances ou c'est...
C'était par des connaissances, c'était aussi le fait qu'à la fin de mon master, mon stage s'était très très mal passé en milieu hospitalier. Et que je ne me sentais pas prêt à retourner dans le milieu hospitalier. Donc j'ai postulé à différents endroits. Et c'est là qu'on m'a accepté. Parce que mon collègue qui me précédait n'avait pas été retenu. Donc il y avait besoin d'un remplacement. Donc on m'a proposé le poste là. Et je me suis dit, ouais, je vais accepter. Donc j'ai signé. Mais ça s'est joué très vite. En moins d'un mois, j'étais en poste. Alors que ce n'était pas du tout décidé.
Il y avait des formations avant
Il n'y a pas eu de formation en soi. Alors, ce qui était compliqué par rapport à mes collègues qui ont pris le cycle en début d'année. Moi, je suis arrivé en cours d'année. Je suis arrivé en novembre, après que mon collègue précédent n'ait pas été retenu. Et donc, on m'a mis dans le bain assez rapidement. Avec quand même une semaine où j'étais encore au CIO, donc c'est là où on est affecté, nous les psychologues d'éducation nationale, où j'ai pu être auprès de mes collègues, assister à des entretiens, j'ai pu prendre le temps aussi de m'informer sur les différents fonctionnements, les protocoles, parce que c'est un métier où il y a énormément de protocoles et beaucoup, beaucoup de choses à maîtriser dans différents domaines. À chaque fois qu'on pense maîtriser quelque chose, il y a toujours quelque chose un petit peu plus loin et il faut aller creuser. Donc j'ai eu ce temps-là. Ensuite, j'ai eu ma directrice qui m'a accompagné sur les établissements pour rencontrer les équipes, parce que j'interviens sur plusieurs établissements. Là, j'interviens ici à la section professionnelle, mais j'interviens aussi dans deux collèges, du côté de Vaucouleurs et du côté de Ligny. Donc avec une autre équipe, un autre mode de fonctionnement, des partenaires aussi complètement différents et ça crée une grande quantité de partenaires. Donc tout ça, j'ai été amené à les connaître, à les rencontrer petit à petit et au début donc à reprendre ce qui était en stand-by finalement. Et c'est comme ça que je m'y suis fait. Où, au début, il y avait des cas où ça j'arrivais à maîtriser. Et puis dès que j'étais coincé, j'appelais du coup mes collègues ou de CIO en disant j'ai cette situation, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là. Et petit à petit, j'ai étoffé ma caisse à outils, on va dire.
Et c'est, quand on parle de CPE, donc son statut, c'est pas pareil que psychologue d'orientation, c'est pareil qu'un enseignant aussi. Il est sous l'ordre d'un autre service, que le rectorat ou c'est...
Le PsyEN, ouais. Alors le PsyEN dépend du rectorat, par contre il est affecté à ce qu'on appelle les CIO, donc les centres d'information et d'orientation. Et on est en soi, quand on intervient sur des établissements, on est partenaire de l'établissement, mais on n'est pas sous l'égide de l'établissement, c'est-à-dire que je ne dépends pas du directeur de cet établissement. Par exemple, c'est ni M. Moreno ni M. Gabé qui m'encadrent. Certes, je travaille avec eux, mais je dépends de ma directrice, de mon CIO.
D'accord. Donc, et comment ça se passe au niveau de programmation? Est-ce qu'il y a un emploi du temps ici l'année ou c'est par semaine ou comment ça s'organise? Donc, voilà l'affectation et aussi le choix au niveau de déplacement dans le lycée, dans les collèges. Voilà, comment ça se passe l'organisation?
Moi, je l'ai raté en début d'année, mais il y a une réunion au CIO avec tous les psychologues et les directrices et ils se répartissent donc les différents établissements. Le but du jeu, c'est que tout le monde a à peu près le même amplitude en termes d'effectifs, d'élèves à accompagner. Et ensuite, donc, en fonction des établissements, il y a des taux horaires qui sont affectés, donc qui sont calculés sur les années précédentes en disant l'année-là, on a accordé 700 heures à cet établissement, on a réussi à l'accompagnement et on a mené au bout. Ou alors, est-ce qu'il y a besoin de plus? Est-ce qu'il y a besoin de moins? Donc moi, je suis arrivé sur un poste qui avait été déjà défini par mon collègue, donc j'ai repris en l'état. Et après, se définissent, chaque psychologue propose les dates en disant j'interviendrai dans tel établissement tel jour, ensuite dans tel établissement tel jour, sachant qu'on a aussi en plus une permanence obligatoire au CIO. Donc il faut compter ça aussi dans nos semaines.
Il y a combien d'heures par semaine pour
On doit 35 heures par semaine avec 27 heures en présence effective. Donc on doit être en 27 heures en face-à-face avec de l'accompagnement ou dans des établissements. Et ensuite on a 8 heures où on doit... Enfin c'est 8 heures théorique, mais ça peut être beaucoup plus, et surtout au début c'est beaucoup plus, où on doit étudier le bulletin officiel, des réformes qui ont été lancées, et puis des contenus, des différents parcours et des choses qui sont proposées, avec aussi tous les protocoles, par exemple comment on fait passer un élève d'un CAP à une filière professionnelle en bac pro par exemple. Tout ça c'est des choses qu'il faut qu'on étoffe. Avec tout ce qui a été, donc là, la réforme du bac 21, par exemple, où il m'a fallu beaucoup de temps pour l'assimiler, voir ce que ça allait impliquer, sachant que les discours ont changé. Ce qui était vrai en décembre n'est plus forcément à l'heure actuelle, donc il fallait ajuster. Donc ça, il faut travailler.
Et comment se déroule une journée d'un psycho langue de d'orientation? Comment ça se passe une journée?
Une journée type d'un psychologue d'orientation, il arrive en établissement et il va chercher son cahier de rendez-vous. Alors, en fonction des établissements, il n'est pas toujours défini au même endroit. Ici, par exemple, c'est avec la vie scolaire. Donc, les élèves vont à la vie scolaire prendre rendez-vous. Donc, on récupère le cahier. On regarde si, effectivement, on a beaucoup de rendez-vous qui sont prévus ou pas. On essaye d'avoir la nature des rendez-vous. Donc, la plupart du temps, c'est quand même des rendez-vous plutôt pour l'orientation. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours les élèves qui sont demandeurs. Des fois, ça peut être les professeurs ou ça peut être l'équipe pédagogique. Et ensuite, donc, on part au rendez-vous. On fait les entretiens. On mène les entretiens. Et après, chacun, on est à peu près libre de ce qu'on fait dans la journée, de la façon de les mener. Moi, je me suis donné pour discipline, par exemple, de toujours faire un retour aux professeurs principaux et aux équipes pédagogiques pour accentuer ce travail collaboratif autour d'eux, histoire que tout le monde puisse avoir les mêmes éléments, surtout pour un projet qui est quand même un projet d'orientation, qui est un projet d'avenir pour les élèves. Donc, c'est intéressant que tout le monde puisse travailler en disant « Ok, la perspective de cet élève, c'est ça ». Donc, je fais mes entretiens et à côté de ça, quand j'ai des temps morts où j'ai fini ma journée, je prends aussi un temps donc, pour envoyer des mails. Il y a beaucoup, beaucoup d'administratifs derrière pour informer telle ou telle personne. Et je suis amené aussi à rencontrer des professionnels sur des situations qui coincent, par exemple. Là, je travaille beaucoup avec M. Charrois sur les décrocheurs scolaires. Donc, comment on va les rechercher? Comment on peut essayer de les remotiver vers la voie de l'enseignement et un diplôme, une qualification? On peut aussi travailler donc avec les directeurs d'établissement s'ils ont une demande particulière en disant telle famille je travaille avec, j'ai un peu de mal, est-ce que vous pouvez m'aider sur le plan de l'orientation. Donc ça, c'est toutes les choses que je peux être amené à faire. C'est très varié, on sait jamais comment ça va se composer. Là, je sors d'une période où ça faisait 2 semaines, j'avais plus forcément énormément d'entretiens parce que c'est une période un petit peu creuse. Les élèves doivent remplir, par exemple, au niveau du collège, les feuilles de vœux, donc ils doivent indiquer où est-ce qu'ils souhaitent aller. Donc, dans cette période-là, c'est creux. Et puis maintenant qu'ils sont en train de revenir, on voit là où ça va coincer. Et donc maintenant, j'ai à nouveau des emplois du temps très très chargés avec des situations un petit peu plus compliquées que j'avais jusque-là.
Oui, donc alors, comment ça s'organise au niveau de la responsabilité, quand on parle le choix, voilà, être responsable seulement de lycée professionnel, quand on le choix seulement lycée général, c'est dans quelle donc, structure il y a plus de travail donc, il y a plus de demandes. C'est dans le collège, dans le lycée général, technologique, ou bien dans le lycée professionnel? Oui.
Alors, j'ai pas de recul parce que je ne travaille pas, j'interviens pas en lycée général.
C'est avec le collègue, donc il y a discussion.
Mais je pense que ça dépend pas forcément du site d'intervention. Ça va dépendre de quelque chose d'un petit peu plus large. Je prends à Commercy, il y a beaucoup de demandes parce qu'il y a une problématique aussi en termes de transport et d'infrastructure. Les formations qui sont souhaitées sont pas toujours disponibles. Après, les élèves en voie professionnelle, théoriquement, ont déjà été orientés dans une voie. Si je prends par exemple mes élèves en collège que j'accompagne, eux pour la plupart n'ont pas forcément d'idée, et quand on leur indique qu'il faut passer de Vaucouleurs à Verdun pour la formation là, c'est un peu coincé. Donc là aussi il y a peut-être un travail de fond, peut-être avec l'assistance sociale à mettre en place ou d'autres choses. En soi, je dirais qu'il n'y a pas de public plus compliqué ou plus demandeur qu'un autre. Ça va vraiment dépendre des sites d'intervention.
Est-ce que parfois donc, ici par exemple les professionnels, est-ce qu'il y a des interventions sans demander, par exemple, aller participer déjà au début de l'année, ou bien même au milieu d'assister avec la classe complète pour leur faire passer des messages?
Alors, on peut effectivement intervenir en classe. Je l'ai fait au début énormément pour justement me présenter, permettre de dire que j'étais là, qu'il y avait un conseiller d'orientation qui pouvait venir consulter. Alors, c'était un petit peu compliqué parce que c'était une période où il y avait les problèmes de transport routier. Donc, j'ai raté une partie du public, en tout cas. Mais pour les collègues, enfin les camarades qui étaient là, eux ont eu l'information, les professeurs aussi. Et ça a créé justement de la demande que je n'avais pas au début. Il y a aussi tout un travail de mise en place d'une demande. Et je suis beaucoup intervenu sur justement la réforme du bac, comment ça allait se passer l'année prochaine pour le bac 21 dans la section d'enseignement professionnel, pour être un peu plus au clair sur la différence entre un CAP, un bac professionnel, qu'est-ce qu'on appelle le BEP, qu'est-ce qu'on appelle une période de formation en milieu professionnel. Donc tout ça, effectivement, je suis venu le présenter en classe entière en passant le message que par la suite, si certains avaient des questions, j'étais disponible en individuel. On joue sur les deux. Après, on n'est pas forcément centré que sur l'orientation, on peut faire autre chose. On est aussi chargé de faire de la prévention de décrochage scolaire ou d'autres dimensions. On a une marge de manœuvre assez libre finalement. Je sais que ma collègue qui intervient par exemple en SECPA a travaillé sur les stéréotypes des genres dans les métiers. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus féminins, des métiers qui sont plus masculins? Moi par exemple, j'ai travaillé au collège sur un atelier de gestion du stress pour préparer les gamins qui vont passer le brevet cette année. Voilà, c'était quelque chose que je voulais vraiment travailler avec eux, leur mettre à disposition ces outils pour gérer des situations qu'ils seront amenés potentiellement à connaître un peu plus par la suite des études.
Est-ce qu'il y a plus de contacts par les parents ou plus par les élèves?
De contacts, c'est-à-dire qui prend rendez-vous?
Voilà,
Ça dépend des familles. On a des élèves où on sent bien qu'au niveau du soutien familial, c'est assez absent et qu'ils construisent leur parcours seuls. Et donc, il faut aussi l'entendre. Et il y a l'inverse, on a des familles où c'est plutôt la famille qui est demandeuse et l'enfant se sent assez peu investi dans ce projet. On a l'impression qu'il est un peu décalé par rapport à son projet. C'est vraiment au cas par cas et c'est toujours très particulier. Après, les familles sont toujours bienvenues dans l'entretien et c'est mieux quand on les a parce qu'on peut vraiment travailler ensemble. Parce que si moi je travaille un projet de mon côté et qu'en fait la famille n'est pas pour ce projet-là, ça peut un petit peu coincer. Et en même temps, ça fait partie du métier. On compose avec, on essaye de comprendre aussi quels sont les motifs, qu'est-ce qui peut faire que ça freine, quelle est l'histoire qu'il y a derrière. Je prends un exemple que j'ai eu dans un collège où j'interviens, une élève qui avait un profil qui s'orienterait plutôt vers une orientation en SECPA. Où l'équipe pédagogique m'a dit, mais clairement, elle dépend d'une SECPA, il faut l'orienter. Et pourtant, la famille freinait. Et j'ai pris un temps de contacter la famille, de voir ce qui coinçait derrière, ce qui mettait derrière. Et en fait, il y avait des appréhensions des parents. Et c'était pas tellement avec l'enfant qu'il fallait travailler, c'était avec les parents, les rassurer, leur expliquer ce qu'était la SECPA, ce que ça permettait en termes de poursuite et de débouchés. Et le projet a pu se reprendre. Et effectivement, je sais que cette élève l'année prochaine sera dans une SECPA, qui est quelque chose où elle est plus ajustée, elle pourra mieux mettre en avant ses compétences et ses qualités.
Oui, donc voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler sur les deux.
Il faut travailler sur les deux, il faut être très très polyvalent. Un peu cette image de jongler avec plein d'assiettes à la fois et avec toujours une assiette où il nous manque, on a besoin d'approfondir, on peut avoir besoin de demander.
Est-ce qu'il y a une facilité de discuter avec les parents ou parfois c'est difficile donc voilà, de faire passer des messages voilà, surtout que maintenant avec tellement voilà, le préjugé, etc., sur certaines filières. Sur, voilà, donc,
alors c'est vrai que c'est pas la même chose entre ce qu'on a du regard extérieur de ce qu'on a à l'intérieur. Moi, j'ai, par exemple, il y a cette fameuse différence entre la voie de l'apprentissage et la voie professionnelle en statut scolaire. Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est une formation qui répond aux besoins d'un élève. Et il y a aussi, du coup, les représentations que les parents ont derrière. Certains ont fait un parcours eux-mêmes dans l'apprentissage et s'en sont très bien sortis et ne jurent plus que par ça. Et à l'inverse, d'autres ne jurent que, par exemple, par un bac S en disant bah, sans bac S, tu peux rien faire. C'est faux. Et en même temps, faut accueillir cette demande du parent. Je pense que c'est vraiment là la dimension psychologique qui est prise en compte. C'est comment on écoute la demande et comment on peut amener cette demande à changer. Quelles sont les limites qu'on va rencontrer?
Je sais pas si c'est clair. Voilà, donc surtout que ici, est-ce qu'il y a le problème de local, etc., qui s'était déjà apparu l'année dernière. Il y a encore local pour accueillir.
Alors ici,
CEO,
effectivement,
parce que c'est, avant, par exemple l'année dernière, je pouvais partir avec les élèves de seconde, etc. Je travaille avec eux ici au CDI. Après, donc on se rencontre avec voilà psychologue d'orientation pour faire encore des questionnaires ensemble. Comme ça, ils voient aussi donc le lieu et voir aussi le matériel, donc les documents qu'on peut pas avoir tout ici au CDI. Et cette année, il n'y a rien. Zéro. Donc, est-ce que voilà, c'est problème de local ou c'est...
Alors, c'est plus compliqué, effectivement, parce que cette année, le CIO de Commercy a fermé et donc l'équipe qui était à Commercy a été rebasculée sur le CIO de Bar-le-Duc, ça a été centralisé. Donc, il y a aussi un souci de proximité des CIO. C'est vrai que moi, il faut quand même faire une heure de route pour arriver jusqu'à Commercy, ce qui n'est pas anodin. Donc, pour par exemple prévoir une sortie avec les élèves, ça veut dire prévoir un bus, prévoir toute une infrastructure derrière pour aller faire une visite. C'est pas toujours facile à mettre en place. Donc oui, il y a une perdition. Et ça, c'est un peu une réforme au niveau de l'éducation nationale. Il y a un changement au niveau des CIO où se pose réellement la question de la pertinence des CIO. Est-ce qu'ils vont les garder en l'état actuel ou est-ce qu'ils veulent fermer les CIO? Qu'est-ce qu'ils vont faire effectivement de nous, les psychologues d'éducation nationale? Certains seraient pour nous affecter directement par établissement, mais ça ferait un psychologue par établissement, ce qui ferait des effectifs où il faudrait augmenter la quantité assez massivement. Et en même temps, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un psychologue en permanence sur un établissement? Est-ce que c'est judicieux? Tout ça, c'est des questions plutôt administratives qui se jouent au niveau du rectorat. Nous, on est vraiment au bout de la chaîne, donc après, nous, pour nos interventions sur le terrain, bah, ça impacte aussi, parce qu'on a aussi moins de temps. Enfin, je suis obligé de constater, par exemple, dans mes heures d'intervention ici, il faut que je compte mes temps de trajet depuis mon CIO, ce qui enlève énormément de temps que je pourrais passer ici à intervenir dans des classes ou à accompagner des élèves. Donc, tout ça, ça joue.
Oui, donc c'est pour ça que c'est ça qui est surprenant. Donc, c'est vrai, cette année, je vois moins donc, les responsables donc, d'orientation, ils sont moins disponibles qu'avant. Et c'est vrai, donc ce que je viens d'entendre, voilà, pourquoi le choix que Bar-le-Duc, c'était décision de rectorat et les autres, alors comment ça s'organise? Il faut tout le temps voilà, se déplacer. Et les parents, alors donc, ceux de Bar-le-Duc, est-ce qu'il y a, voilà, comme on dit, favoritisme de ce côté-là? Parce que les parents de Bar-le-Duc, ils peuvent facilement aller te frapper et avoir des informations. Et ceux qui sont, voilà, donc, que ça commercie ou tu as des villages autour, qui sont loin à 20 ou 30 km, à ce moment-là, il n'y a plus cette possibilité-là.
Il y a vraiment cette différence en termes de proximité. Je prends un Bar-le-Duc, qui a un établissement scolaire qui est juste à côté du CIO. Si un élève a une heure de permanence, il y a toujours un accueil public en permanence au CIO, même sans rendez-vous. L'élève peut traverser la rue, il frappe à la porte et il peut se renseigner sur son orientation. À Commercy, ben, c'est un petit peu plus compliqué. Soit il faut qu'il prenne un bus. En plus, s'il vient avec les parents, souvent il faut que les parents posent une demi-journée de congé. Donc effectivement, les chances par rapport à l'information sur l'orientation ne sont pas les mêmes. Après, il faut rebasculer aussi sur l'outil informatique. Il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur Internet. On travaille avec l'ONICEP. Et l'ONICEP a une certaine partie des informations et qui peuvent venir complétées justement pour nos rendez-vous sur l'établissement.
Oui, mais donc, malheureusement, le problème, c'est que déjà pas mal de parents que voilà, pour et... déjà pour moi je vois l'ONICEP c'est quand même compliqué donc
c'est pas facile d'accès.
Moi je vois quand même quand on travaille avec les élèves il faut toujours être derrière il faut voilà certains il faut leur montrer voilà où il faut y aller
et puis ça remplace jamais un entretien physique et concret
c'est pas pareil
donc ça n'a pas la même qualité et on n'est pas prévu non plus un projet par exemple de standard téléphonique où on pourrait répondre donc c'est toujours très très compliqué
donc est-ce que donc il y a parfois des réactions de des parents qui sont en colère ici, vous avez
moi j'en ai pas vu ou en tout cas si ça pouvait s'apparenter à de la colère je le prends un peu différemment parce que je la comprends et j'entends tout à fait que c'est pas équitable parce qu'il y a des parents aussi je leur dis voilà moi j'interviens par exemple qu'une seule journée ici sur l'établissement j'interviens le mercredi matin tous les parents sont pas disponibles le mercredi matin donc je leur dis ben éventuellement une permanence au CIO moi je suis une permanence au CIO le vendredi après-midi c'est pas forcément des horaires qui leur conviennent non plus c'est des horaires de semaine c'est pas tout ça j'entends que ça peut être très très compliqué à gérer pour un parent donc la responsabilité aussi de l'élève de pouvoir venir mais dans la mesure où il faut qu'il prévoie un bus etc ce qui est pas toujours simple je prends pour des élèves de 6e je peux pas leur demander de prendre un bus pour aller venir me voir au CIO donc là c'est à moi d'essayer de jouer dans ma marge de manœuvre éventuellement pour proposer des rendez-vous sur mes temps parce que j'ai des demi-journées du coup qui sont plus où je suis censé faire du renforcement théorique enfin de lire, m'informer et je peux prendre une partie de ce temps-là en me disant écoutez si vous êtes disponible que lundi après-midi je me déplacerai sur l'établissement ça c'est une petite liberté qu'on a mais encore une fois il faut que ça puisse coller c'est compliqué d'avoir cette démarche d'aller vers les parents en leur disant qu'il y a quand même un certain limite, il y a une cadre dans lequel on ne peut pas aller plus loin. Quoi.
Donc cette année, c'est passer plus de temps dans les paperasses, les bureaux, au lieu de suivre beaucoup donc, les parents, est-ce que ça vraiment ça encourage encore plus donc, voilà, de dire il n'y a pas d'écoute autour. Donc, est-ce qu'il y a au moins donc, une étude qui a été faite pour dire que là, il faut revenir en ce système où ils vont garder vraiment ce système pour la suite, avec la réforme qu'on a et maintenant. Est-ce que ça a impacté sur les décisions et aussi donc le temps de suivi ? Est-ce que c'était toujours le même ? Ça n'a pas changé donc,
Le temps de suivi n'a pas changé, mais effectivement, la disponibilité des psychologues est plus restreinte. Sachant que, du coup, par exemple, quand ils ont fermé le CIO de faire de commerce, ils avaient 3 postes, ils n'en ont gardé que 2. Donc tout ce qui est, dès qu'on enlève un effectif, il faut le répartir sur les autres. Et moi, par exemple, l'aménagement qui était proposé à mon collègue précédent, c'était que comme il était déjà sur des sites qui étaient éloignés, vu qu'il avait une heure de route à chaque fois, il n'avait qu'une demi-journée d'intervention au CIO. Sinon, mes collègues ont une journée complète d'intervention, voire une journée et demie pour certains, pour compenser, pour essayer d'égaliser. Mais c'est plus en fait des arrangements en interne et des accords en interne que vraiment une décision qui a été appliquée, qui a été actée au niveau du rectorat. Il y a une espèce de double discours. Après, je sais qu'il y a pas mal... Il y a des pétitions, il y a des choses qui sont faites pour essayer de comprendre l'importance des CIO et notre présence. Et en même temps, en haut, il y a aussi cette façon de voir les choses qui est il y a un budget à mettre en place et quelle place on accorde à ça, est-ce qu'effectivement c'est important ou pas. Il y a un centre d'études, j'ai plus le nom là en tête, mais il y a un centre d'études qui justement évalue est-ce que le conseil d'orientation est intéressant et qui. Tous les accompagnements, toutes les procédures, ça va au-delà du conseil d'orientation, mais qui peuvent être actées et chiffrées. Et c'est un peu le problème de notre métier, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte de. On n'est pas juste des chiffres. Enfin, quand moi je travaille avec un élève, c'est pas un élève que j'ai besoin d'orienter à tel ou tel endroit. C'est un parcours de vie que j'ai besoin de construire avec cet élève en comprenant de quoi il a envie, qu'est-ce qu'il veut faire, est-ce qu'il présente les capacités, est-ce qu'effectivement il a une chance ou est-ce que. Enfin, voilà, c'est plus profond que ça. C'est pas juste. Je pourrais lui dire, écoute, ça c'est bac pro, ça c'est bac général, ça c'est tel endroit. Mais une machine peut le faire en fait. C'est ça la vraie différence, c'est qu'il y a quand même une relation humaine à mettre en place derrière.
Et par rapport même quand on parle maintenant, donc, que ce soit la réforme, que ce soit aussi avec l'IC 4.0, etc., est-ce qu'il y a beaucoup de réunions avec aussi les CEO, leur dire voilà, donc vous faites partie de la pédagogie. Et est-ce qu'on vous demande votre avis ou bien on vous donne comme. par rapport à l'enseignant au CPE, etc., bah, vous avez l'information et bah, il faut appliquer.
Alors ça dépend parce que chaque département a sa marge de manœuvre également. Et je sais qu'ici, par contre, pour tout ce qui est décision d'orientation, un avis alors, d'orientation quand ça sort un peu du standard, c'est-à-dire que ce n'est pas une troisième vers une seconde, mais que c'est par exemple vers une... Là, par exemple, je travaille sur les orientations en prépa métier. On demande au conseiller d'orientation d'avoir rencontré l'élève et d'avoir rédigé un compte rendu de cet entretien pour voir si effectivement la demande est motivée ou non. Et ça, je sais que par contre, c'est une demande officielle du rectorat qui, sans ce document dans le dossier, le dossier n'est pas étudié. Donc, il y a quelque part aussi des gens qui sont un peu plus haut que nous dans le fonctionnement, qui soulignent notre importance et qui accentuent notre présence. Mais je pense qu'eux aussi se confrontent à ceux qui estiment qu'on n'a pas forcément d'utilité dans l'éducation nationale. Je pense que c'est un conflit qui se joue plus haut et que nous, on est un peu trop loin de la chaîne. L'intermédiaire entre les deux, c'est ma directrice de CIO, hein, qui intervient sur beaucoup de commissions, qui est présente, qui intervient beaucoup avec les directeurs d'établissement. Mais ce qui lui fait du coup un emploi du temps assez chargé et à un moment donné c'est est-ce que c'est plutôt de l'administratif et quelque chose un peu d'une action syndicale ou est-ce que elle peut encore répondre à ses missions qui est est-ce que je peux être présent pour mon équipe finalement, est-ce que je peux les accompagner. Ça devient un peu difficile ces derniers temps de pouvoir voir avec elle certaines situations un peu compliquées.
Quand on parle que le CEO psychologues d'orientation, ils interviennent aussi dans le conseil de classe, aussi par rapport à certaines questions. Et est-ce que donc ça, il y a plus de demandes maintenant au niveau des cas particuliers ou c'est toujours stable? Donc, par exemple, toi, qu'est-ce que tu as senti cette année? Il y a plus de tu participes plus dans les réunions, dans les conseils de classe ou bien l'intervention seulement avec des cas particuliers, par rapport à cette année comment ça se passe?
Alors j'ai pas de recul parce que c'est ma première année en poste, mais je sais que par exemple au premier conseil de classe déjà la plupart du temps on a oublié de m'informer des conseils de classe, donc c'est très pratique quand on travaille avec des élèves et qu'on arrive on nous dit mais c'est passé. Mais c'est aussi il y a tout en place d'un travail relationnel à mettre parce que faut
nous c'est notre mission. Vous n'étiez pas informé comme ça?
Je pense que parce que j'étais pas assez présent ou j'étais pas assez ancré dans l'équipe pédagogique, c'est-à-dire que c'est par le biais des comptes rendus que j'envoie aux professeurs principaux, c'est par mes communications avec les CPE, avec les directeurs d'établissement, que on va petit à petit me mettre dans la boucle et me dire attendez, on a un conseiller d'orientation qui peut-être nous aider sur ce point-là. Faut toujours partir du principe qu'un établissement scolaire c'est quand même un système, ce qu'on appelle un système fermé, donc avec ou sans nous il a l'habitude de fonctionner. En plus on a ce poste qui, comme on a dit tout à l'heure, qui est assez on intervient dans l'établissement et en même temps on ne dépend pas de l'établissement. Donc s'il veut composer sans nous, il a tout à fait la liberté de composer sans nous. Donc là c'est à nous d'essayer de faire un petit peu notre place et de dire écoutez, là on a peut-être une pertinence à pouvoir intervenir avec ce regard différent. Parce que je parlais par exemple de la situation tout à l'heure de cet élève en orientation SECPA où j'aurais dit moi dans la situation par rapport à ce que vous décrivez, je vois plutôt ça comme ça et j'aurais présenté ça. Et ils sont partis sur ce projet et ont intervenu. Et je sais que maintenant... pour ces décisions-là, on me met dans la boucle, on me tient informé, parce que des fois, je travaille avec des élèves, je propose quelque chose, j'ai jamais de retour, et quand je recroise l'élève, il me dit, on a travaillé ça, on a fait ça, etc. Et je dis, d'accord, parce que personne m'a informé, donc c'est pas toujours évident. Donc ça va dépendre déjà de la qualité relationnelle qu'on a avec les équipes en place, soit en passant par les professeurs, soit via la direction, soit quand tout se passe bien ensemble, sachant que c'est pas évident. Déjà, pour réaliser un conseil de classe, pour avoir tous les professeurs, c'est très compliqué. Donc sur un temps libre.
Comment ça se passe ici donc la relation
ici la relation
avec le lycée professionnel avec l'équipe pédagogique tout comment donc au niveau de l'organisation.
Dans l'ensemble ça se passe assez bien. J'ai beaucoup travaillé davantage avec les secondes parce que les premières et les terminales professionnelles généralement seront assez bien ancrées dans leur parcours. Je suis intervenu auprès des secondes bac pro usinage par exemple, donc avec l'APP pour leur présenter les poursuites d'études possibles. Ça aussi je l'ai fait au niveau des terminales. Et je sais que maintenant, à l'heure actuelle, donc elle est en train de remplir les différents dossiers et elle me dit voilà, j'aurais besoin de ton avis sur tel ou tel point. Parce qu'avec elle, en particulier, j'ai une bonne relation. Mais il y a d'autres professeurs principaux que j'ai jamais rencontrés, qui n'ont jamais répondu à mes mails. Je me sens un peu tout seul à travailler. Ça ne m'empêche pas de faire mon travail. Moi, je m'impose de toujours envoyer un compte rendu. Après, c'est aussi eux qui décident s'ils peuvent ou pas. Après, c'est toujours la même question. Est-ce qu'ils ont eu l'info? Est-ce qu'au contraire, ils ont l'habitude de fonctionner sans? Est-ce qu'ils ont besoin d'un partenaire ou pas? Là, c'est moi qui retourne à chaque fois en leur disant bah, je suis présent, vous pouvez envoyer des gens, il n'y a pas de souci, etc. J'ai plus l'impression de travailler avec la vie scolaire et avec les CPE ici que vraiment avec les professeurs principaux. Alors que sur d'autres établissements, c'est l'inverse.
Est-ce que ça passe comme ça partout dans les autres établissements ?
Non, sur d'autres établissements, c'est l'inverse. Je travaille davantage avec l'équipe pédagogique qu'avec avec la direction. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses.
Mais est-ce que c'est... Laquelle est meilleure donc, pour que ça marche bien ? C'est travailler avec CPE pour que ça marche mieux, c'est qui est plus en contact direct avec les élèves.
Faut pas oublier que c'est quand même le directeur d'établissement qui a le dernier mot sur les dossiers, sur les choses qu'on peut proposer, même si la famille a aussi son avis à dire sur les orientations, et elle peut s'opposer tout à fait à la décision du directeur. Donc il faut toujours avoir quand même l'aval du directeur, donc ça j'essaye dans la mesure du possible de toujours l'informer, de tenir informé. Mais je préfère travailler avec les professeurs principaux parce que ils sont plus au contact avec les élèves, ils les voient au quotidien. C'est ce que je dis souvent aux élèves quand je les entretiens, c'est que moi je ne te connais pas scolairement, je ne sais pas si tu participes, si tu es en retrait ou pas. Et pour ça j'ai besoin moi de l'avis des professeurs qui peuvent me dire ah oui effectivement il est peut-être un peu fragile scolairement, mais en classe il est motivé, il participe, il est présent, ou alors oui il a des très bons résultats mais à côté de ça il ne fait pas forcément grand chose. Et ça moi j'ai pas le recul, je ne peux pas passer une journée avec l'élève pour savoir comment il se comporte en classe, et j'ai besoin de l'avis de l'équipe pédagogique et du professeur principal qui en plus tu peux travailler sur d'autres matières. Parce qu'un élève peut se présenter sous un certain angle dans une matière et dans une autre complètement différemment. Et c'est vraiment parce qu'on a mis tout ça en lien les uns avec les autres qu'on peut se dire, bon, bah, dans l'ensemble, ça donne plutôt ça ou plutôt ça. Sachant qu'il reste aussi ce biais-là qui est qu'on a un regard scolaire. On est vraiment axé que sur ses compétences scolaires. Et moi, j'essaie d'amener ce regard un petit peu plus élargi, de dire, ok, scolairement, il n'a pas l'air de coller, mais sur son temps libre, il fait telle activité ou telle chose, donc il a des compétences dans ce domaine. Simplement, dans le cadre scolaire, il n'arrive pas à les exprimer. Et c'est pour ça que j'ai besoin, moi, des PP.
C'est vrai, au niveau de la formation, moi, je vois, cette année, on travaille beaucoup pour l'orientation, on reçoit beaucoup d'élèves, et c'est vrai. Moi, chaque année, d'habitude, je fais toujours une réunion avec l'équipe de CEO pour discuter comment on va s'organiser, parce que même que ce soit les professeurs ou la direction, les CPE, on a des échanges. Donc, on participe à la réunion et on donne notre avis. Et on est l'intermédiaire. On sait comment... faire transmettre des informations, et on sait les documents qu'on reçoit pour l'orientation, pour guider aussi l'élève. Et c'est vrai, cette année, c'était aussi pour nous, c'était compliqué. Au niveau de contact avec les professeurs, etc., on croit venir ici. Et alors que l'année dernière, c'était plus efficace.
Je pense que ce qui joue beaucoup par rapport à cette année, c'est qu'on a des professeurs principaux qui sont missionnés de faire de l'orientation. Et il y a cette réforme du bac 21 où finalement on a assez peu d'éléments. Ça a un peu changé, mais il y a toute une période où on a eu assez peu d'éléments. Il y avait beaucoup de projets et rien qui était acté. Et je pense que du coup, ils ont essayé de faire au mieux de ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, sachant qu'effectivement, ce n'est pas leur métier à la base. Ils sont avant tout professeurs de discipline, et qu'il a fallu composer avec ça. Et que dans cette espèce de mêlée, ça a été compliqué de dire j'ai besoin de tel partenaire, ou de s'organiser, d'avoir quelque chose de plus structuré peut-être. On sent que ça a été un petit peu plus... chacun a fait du mieux qu'il pouvait, mais de côté un peu dans son coin en fait.
C'est quand même compliqué parce que moi, j'avais, puisque je savais, cette année, il y avait moins de présence de responsable de CEO. J'ai essayé de faire des questionnaires qui s'approchent plus, avec vraiment ce qui est présenté au CEO. Donc, ça a été considéré comme quoi on n'a pas besoin. On passe directement. Alors que pour moi, il faut passer par la psychologie. L'enfant, il faut déjà qu'il comprenne c'est quoi ses capacités. au lieu de commencer directement à les balancer sur voilà, les métiers, ce qui se passe après post-bac, bah, il faut d'abord faire un questionnaire, arriver à la fin, comme, voilà, c'est, qu'est-ce que j'ai comme capacité, de quelle façon je dois réagir à certaines situations. Et à partir de là, ce que j'ai toujours fait, et là, cette année, je n'ai pas pu le faire. Donc, c'était bloqué complètement. Voilà, donc on fait des choses. Voilà, c'est, allez, on va sur l'ordinateur, on va sur le site, et voilà, on regarde les métiers. Alors que c'est bénéfique, parce que je sais, moi, ça fait donc 30 ans dans l'enseignement, je sais ce que ça veut dire. J'ai été enseignant aussi avant, 15 ans, et après enseignant documentation, où on a donc la relation avec le CPE et CEO, c'était donc une relation forte, parce que donc on avait toujours l'un besoin de l'autre, parce qu'on souvent déjà au lycée, la plupart du temps, le bureau donc de CEO était toujours installé à côté de CDI. Donc on faisait toujours nous avant la majorité des lycées. Bah, c'est là où ça passe le rendez-vous. C'est parce que nous, bah, ça nous permet chaque fois de discuter avec les élèves, et ça aussi, ça nous facilite donc de leur montrer les documents qu'on reçoit. Donc au CDI, on a toujours kiosque de CDI, ça fait partie donc de présentation, ça fait partie de faire passer des messages. Et c'est vrai, ça aussi, ça a été compliqué. Donc, par rapport à ça, il faut faire passer le message. Et voilà, donc c'est normal. Nous, on reçoit plus d'informations, comme pareil, donc CEO, au niveau de l'UNICEF, au niveau aussi de l'État. Donc, on reçoit aussi donc plus d'explications par rapport à la réforme, par rapport à... En plus, nous, on a l'avantage de participer à toutes les réunions, que ce soit donc pédagogique ou non. Et ça renforce. Et c'est ça, ce qu'on vient d'entendre. Et alors, donc, et ça, avec tous ces... Voilà, des bas et des hauts... malgré ça, est-ce qu'il y a des réactions des personnes déçues, donc voilà, de pas avoir l'information claire, ou parfois donc vous n'avez pas eu la possibilité donc de leur transmettre le message, donc clairement, donc ça c'est pas facile après pour gérer.
Il y a plus le sentiment de certains parents d'avoir cette difficulté à rechercher l'information, en fait, parce qu'on sait que l'information est là, mais le chemin d'accès est très flou, très confus. Ils peuvent le chercher à un endroit, on va leur donner une autre information, ils vont le chercher à un autre endroit, ils auront encore une autre information. Et souvent, quand je reçois des parents au CIO de Bar-le-Duc directement, j'ai ce discours un peu exacerbé de dire « Écoutez, ça fait 2 mois que j'essaie d'avoir l'information, là vous me sortez encore une fois un autre discours, je crois qui au final, qu'est-ce que je fais ?» Et là, j'entends que ça peut être très compliqué. Je travaillais avec une élève qui aurait voulu faire une section euro, par exemple, au niveau de là. Elle pratique l'allemand, je crois. Non, anglais. Elle voulait faire anglais. Le plus proche, c'est au niveau de Verdun. Dans les textes, ils peuvent tout à fait, par exemple, aller à Verdun. Sauf que quand on a appelé Verdun, elle nous a dit « Mais vous avez pas de possibilité parce que vous êtes trop loin au niveau du secteur. » Et du coup, moi, derrière ça, je me suis dit « Mais c'est pas possible qu'on puisse dire ça à l'élève. » J'ai appelé, du coup, ce qu'on appelle la DSDN, donc le service des affectations, en leur disant « Voilà, j'ai cette situation, j'ai l'élève qui aimerait aller là-bas. » Pour moi, dans les textes, j'ai pas de contre-indication. Et le professionnel m'a dit « Écoutez, je ne sais pas, tant que le guide d'affectation n'est pas sorti, je peux rien vous certifier. » Et je me dis, donc effectivement, qui fait foi et qui fait le discours, et donc cette maman était complètement désemparée, et moi j'étais très limité dans ce que je pouvais lui proposer, parce qu'on venait de me dire que ben non, elle peut pas, et finalement le seul qui a un discours, c'est l'établissement en question, parce qu'il sait comment il fonctionne, il sait qu'il accepte, qu'il peut accepter, qu'il va accepter. Donc effectivement, quand le discours est pas unanime, il faut repartir aux bases. Souvent, c'est ce que je dis, il y a cette espèce de mythe qu'on connaît tous sur tous les parcours, et qu'on maîtrise absolument tout. Et j'ai eu un élève une fois qui est venu me voir en disant qu'il veut faire une école militaire dans l'armée de l'air. Il m'a donné le nom de l'école, etc., où elle s'était située. Elle me dit comment je m'inscris là-bas. Et je dis mais moi j'ai aucune idée, je ne sais pas. Est-ce que toi t'as pensé à les appeler et à prendre les infos, parce que c'est l'école en question, donc ils savent. Elle me dit ah non, pas du tout. Des fois, il faut partir de là, il faut simplement prendre des informations sur le terrain, et pas forcément chercher très haut, partir dans des bulletins officiels et des choses comme ça. Il y a aussi de l'information sur le terrain qui est proposée, qui est souvent un peu pas cherchée, ou qui est un peu évitée par les élèves ou les parents.
C'est pour ça que je t'ai invité, c'est pour vraiment entendre des exemples comme ça, parce que les parents qui écoutent maintenant, voilà, là, ils n'ont pas ces informations. Ce n'est pas l'école qui leur donne ces informations-là. Voilà, donc, ils sont vraiment, quand ils arrivent aux limites, voilà, que, voilà, donc, bah, ils sont perdus, ça pas, voilà, la réaction. Parfois, ils ont des réponses qui ne sont pas claires. Donc, voilà, ils peuvent avoir plusieurs réponses, bah, ils ne savent pas comment décider, choisir aussi. Voilà, c'est pour ça que voilà, c'est mieux d'entendre voilà, des exemples comme ça. Et est-ce qu'il y a d'autres exemples qui, voilà, que tu as pu rencontrer aussi de cette façon-là?
Des exemples un peu du li de limite un peu du
Voilà, un
système.
système, et voilà, et aussi voilà que tu étais obligé donc voilà de réagir et de leur donner d'autres façons donc d'aller donc faire des recherches et de quelle façon à qui voilà les guider pour trouver encore d'autres chemins pour voilà trouver la réponse.
Bah, je prends par exemple le cas d'un élève. On fait aussi la réorientation de, alors partiellement, mais la réorientation d'adulte. J'ai eu un élève là récemment au CIO qui est venu me voir. Il a arrêté sa formation terminale STMG. Il a pas validé son bac et il souhaitait repartir dans de l'orientation professionnelle. Enfin, une formation, il aurait voulu faire en mécanique. Et du coup, il me disait, au statut scolaire, j'arrive pas. Donc, il a essayé au niveau de l'apprentissage, au niveau d'un CFA. Donc, je dis, oui, c'est tout à fait possible. Et on a même travaillé une piste éventuellement en formation pour adultes. Et ça, c'est une chose qu'il n'avait pas forcément envisagée. Donc, je pense que c'est ça aussi notre rôle, c'est d'essayer, en tout cas, c'est ce que j'essaye moi de m'imposer, c'est de proposer le maximum de portes possibles. En disant que l'école, c'est une porte possible, le statut scolaire est une forme, le statut d'apprentissage est une forme, et il y a aussi d'autres solutions qu'il faut aller voir. Je pense à ça surtout pour les élèves qui, par exemple, effectivement, au niveau du profil scolaire, sont pas bons, mais qui, par exemple, filière artistique, ont des très très bons talents de dessin, où ils ont, parce que c'est le passe-temps, ils font ça depuis qu'ils sont gamins. Et du coup, je les invite à essayer de mettre ça en avant via des rencontres, quand ils vont aux portes ouvertes, par exemple, en expliquant voilà, qu'ils ont un talent, pour passer au-delà du profil scolaire qui peut être un peu restreint par moment. Parce que très clairement, quand il y a une commission, il y a un nombre de dossiers très très importants, ils n'ont pas forcément le temps de s'attarder sur tous les gamins. Et si la vision est juste bloquée sur le bulletin scolaire, on passe à côté de l'humain même qu'il y a derrière. Et ça, c'est ce que je les invite à faire, notamment ben, soit en rencontrant les professionnels, en allant sur place. Et c'est ça que j'ai envie de leur apporter. C'est vraiment ça que je sais pas si c'est clair dans l'idée, mais c'est
Non,
de.
c'est bien sûr. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il reste
C'est-à-dire que
pas
c'est pas
limité.
fermé,
Voilà, il faut
voilà.
pas qu'il reste limité. Donc à attendre, voilà, une réponse et dire voilà cette réponse-là et ça marche pas, bah je voilà donc
Voilà.
je reste à
C'est
attendre.
pas parce que ça
Non.
marche pas que c'est forcément
Non.
fermé. Moi, je reste persuadé qu'un un élève qui a envie, qui a un projet, même si on lui dit ouais, ça va être compliqué, etc. Oui, mais si c'est vraiment ce qu'il veut faire, je vois pas pourquoi moi je devrais lui dire ben non. J'ai eu ça, un exemple assez classique. Un élève de troisième qui a un très très bon profil scolaire, il a 18 de moyenne, et il est venu me voir. Il m'a dit, voilà, moi je vais faire un bac professionnel dans les engins dans un chantier. C'est un projet que j'ai depuis la cinquième et j'y dérogerai pas. Donc je dis, mais ton projet est construit, on est tout bon, donc pourquoi on est amené à se voir? Il me dit, bah, parce que mes professeurs ils veulent pas que j'aille en bac pro. Je leur dis, donc ils veulent pas que tu ailles en bac pro parce que t'es trop bon pour aller en bac pro, c'est ça? Et il me dit, bah oui, c'est ça le problème. Et donc là, c'était à moi de travailler en disant, mais ok, il ira en bac pro, et si ça se trouve, il ira bien plus loin que ça, parce que ça s'arrête pas forcément en bac pro, il y a des BTS, il y a des formations, et si ça se trouve, ça sera l'un des meilleurs dans son domaine, et parce qu'il aurait une bonne moyenne, il n'aurait pas le droit d'être dans le domaine qui lui plaît, il faudrait qu'il continue. Et j'aime pas cette espèce d'adéquation en disant, bah, les très bons, ils ont qu'à continuer, et puis les très mauvais, on va les arrêter en bac pro. Non, il y a aussi des très très bons en bac pro, il y a aussi des fragiles en voie générale, et ça leur empêche pas de réussir. Moi, j'ai jamais eu un profil scolaire extraordinaire. J'ai toujours tourné autour de 12 de moyenne. Ça m'a pas empêché d'arriver avec un master, et j'en suis assez content. Et pour autant, on donnait pas gagnant à la base. Donc, tout est possible pour peu qu'on aille gratter et pour peu qu'on croie en ses ressources. C'est sûr qu'après, il faut se donner les moyens aussi de pouvoir réussir. Il faut se mobiliser, il faut se dire à quel moment, ok, je décide de faire des choses ou pas.
Est-ce que donc par rapport à ces exemples-là, il y a discussion dans l'équipe, dire voilà, donc vous discutez, vous dire voilà, on a rencontré voilà ces problèmes-là, des exemples comme ça, comme il faut aussi donc transmettre ces informations à hiérarchie pour leur dire voilà, il y a une réaction, il faut un changement, donc ou bien comment on doit réagir. Est-ce qu'il y a aussi des réunions pour parler de que de ça?
Ça, j'aimerais bien, effectivement, qu'on puisse un peu discuter. Moi, j'ai plutôt une formation qui me pousse à avoir un regard systémique, donc un regard large sur les choses, avec un certain nombre de choses que j'ai vues en psychologie, mais par exemple, un précepte que j'aime bien, c'est que le sens de l'information qu'on reçoit, du message qu'on reçoit, est donné par le sens de l'information qu'on émet nous-mêmes. Donc, si on dit à un élève il est mauvais, ben, finalement, il va nous renvoyer à un moment donné qu'il est mauvais, mais c'est parce qu'on sait ce qu'on lui dit depuis le début, donc il fait ce qu'on lui applique. Alors que si on lui renvoie il est bon, et ben il aura tendance à être poussé vers le haut et à vouloir montrer qu'il est encore meilleur, etc. Des principes aussi bêtes que ça, il y a par moments besoin, je pense, de les redire ou au moins de les travailler ou de les présenter. Sauf que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça au bout d'une réunion. Je pense que c'est vraiment un travail à long terme. Ça prend du temps. Il faut aussi que les professionnels avec qui on travaille puissent l'entendre. Donc je peux pas débarquer en disant moi je sais tout, je vais vous expliquer comment ça passe. C'est pas du tout ma prétention. L'idée c'est de les amener à voir les choses peut-être différemment quand ils se sentent en difficulté, quand ils sentent que ça coince, quand ça arrive pas à déboucher, en disant ben voilà finalement qu'est-ce qui se passe si on change un tout petit peu le regard de la situation et qu'est-ce qu'on peut amener. Et ça j'aimerais bien, mais je pense que ça demande d'être en place depuis un petit moment. Là, pour moi, en première année, c'est compliqué. Je prends par exemple les conseils de classe. C'est quelque chose de compliqué pour moi parce que conseil de classe, ça se passe très très vite. Mmh. On passe 5 minutes sur un élève pour déterminer son orientation. Je trouve que c'est un petit peu léger. Alors, ça se passe bien quand tout le profil est bien construit et que le projet d'orientation est OK. Mais par contre, dès qu'il y a des conflits dans l'équipe pédagogique en disant bah, moi je suis pour les félicitations, moi je suis pas pour, je pense que c'est là que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui fait qu'un professeur est plutôt pour et qu'est-ce qu'un professeur est plutôt contre. Et je pense que c'est là où ça serait pertinent d'intervenir avec un regard un peu plus large en disant bah, oui, donc effectivement, dans ton domaine, il peut montrer qu'il n'est pas motivé, que ça ne l'intéresse pas. Mais est-ce que toi-même, en tant qu'élève, tu as toujours été motivé par toutes les formations? Je pense qu'il ne faut pas oublier que les professeurs ont été élèves eux-mêmes. Donc il y a aussi cette histoire qui peut résonner en eux et ça peut jouer aussi sur ce qu'ils peuvent renvoyer aux élèves. Donc, et ça, ouais, ça prend du temps et ça ne se fait pas comme ça.
Oui, donc c'est vrai, c'est compliqué. Donc, comme on dit parfois, c'est un lieu fermé, donc
assez fermé.
Donc bah, je vois, c'est pour ça que moi, j'ai changé d'arrêter d'enseigner une matière, voilà, parce que c'est on n'a pas cette liberté là, voilà. Donc on ne peut pas donner notre avis ou élargir quand par rapport à une difficulté d'un élève, etc. Mais on reste toujours limité par rapport à l'aspect extérieur et pas aller approfondir un peu pour comprendre.
Il y a des professeurs qui le font, mais c'est des professeurs qui sont vraiment touchés par ça et qui se sont déjà posés, qui ont eu peut-être l'occasion de se poser cette question de qu'est-ce que je peux faire de ce gamin-là. Je prends l'exemple d'une PP de 3e qui m'a beaucoup touché. Elle travaille sur un élève que j'ai rencontré 2 fois. Ça a été très laborieux, j'ai pas réussi à construire grand-chose avec cet élève-là. Mais je pense qu'il ne s'est jamais posé la question vraiment de ce qu'il voulait faire et qu'on n'a jamais peut-être donné l'occasion, en tout cas dans la façon dont il a besoin qu'on travaillait ça avec lui. Et elle me disait, voilà, c'était un travail de rédaction qu'il devait faire sur un texte au futur. Et elle m'a dit, le gamin-là était complètement perdu, il ne savait pas quoi faire. Et donc elle lui a demandé ce qu'il aimait faire dans la vie. Il disait, moi j'aime bien écouter du rap. Et il dit, bah écoute, tu m'écris un rappeur en 2070, et ce qu'il fait dans sa vie, sur quel thème il rappe, etc. Et là-dessus, il lui a sorti un texte de 6 pages, et ça a été impressionnant. Et le gamin était tout à fait dans son domaine de compétences. Et c'est parce qu'elle s'est pris le temps de se dire à un moment donné, bon, comment je peux aller chercher ce gamin-là pour lui permettre d'exprimer ses compétences. Mais c'est un choix qu'elle a fait elle, en fait. Et je pense qu'on ne peut pas l'imposer à tout le monde. Les professeurs ont aussi cette marge, cette liberté. Et je pense que ça demande aussi beaucoup d'énergie aux professeurs. On leur donne un programme qui pour moi est beaucoup trop chargé pour ce qu'ils doivent mettre dedans à l'année. Donc à côté ça, on leur dit bah, si en plus vous êtes PP, vous allez travailler l'orientation, donc encore une casquette en plus, et jongler avec tout ça et les contraintes administratives. Et puis vous oubliez pas, on a prévu de vous changer le bac et tout ce que vous avez su faire à un moment donné, va falloir réapprendre le faire en parallèle. Donc je pense qu'à un moment donné aussi, on ne leur donne pas cette marge de manœuvre. Je prends l'exemple dans d'autres écoles, mais des fois, ils s'accordent une demi-journée par semaine à travailler vraiment avec les élèves, peut-être sur quelque chose d'un peu plus philosophique, ou de faire des débats, ou des choses comme ça. Et ça leur apporte une richesse, mais une richesse humaine, pas une richesse scolaire. Ils apprendront à... On constate dans ces écoles-là, par exemple, qu'il y a beaucoup moins de problèmes de comportement, qu'il y a moins d'absence, que les élèves sont motivés, ils sont curieux, ils ont envie de chercher... Mais c'est pas juste une heure par semaine à droite à gauche, c'est vraiment quelque chose qui doit être ancré et qui doit faire partie de l'établissement. Oui. Vraiment profondément dans le principe de comment on veut accompagner ces élèves. C'est pas compliqué, dans les établissements, par exemple le bureau du du conseiller d'orientation et à l'autre bout dans une salle où c'est jamais éclairé et ça donne pas envie, bon bah on sait à peu près la place qu'on nous accorde et la place de l'orientation qu'on donne. C'est-à-dire ça aussi, ça, comme vous disiez tout à l'heure, le CDI était souvent à côté de du bureau des conseillers d'orientation. Bon bah c'est que là à un moment donné l'établissement a pris la décision de vraiment travailler cette problématique et de la mettre en avant. Mais là aussi ils doivent jongler avec plein de contraintes et j'entendais un directeur d'établissement qui me disait lui il a un problème d'effectif, si moi je fais trop d'orientation par exemple en prépa métier il est possible qu'il soit amené à fermer des classes, du coup il est obligé de jongler avec ça et je trouve que c'est aberrant. On parle à la fois d'humain avec des vrais projets d'orientation et des élèves à aider et à côté il y a une contrainte technique qui est simplement si moi j'autorise ça alors je dois fermer une classe avec les conséquences qu'il y a derrière, c'est-à-dire des suppressions de postes, avec des classes surchargées. Enfin, je me dis, comment on peut travailler dans un système comme ça ? C'est très compliqué, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on tire à un endroit, il y a un autre qui va nous dire « Non, mais vous ne pouvez pas faire ça. » Donc, je suis content d'avoir cette marge de manœuvre, et en même temps, je sens vite quelle limite on me donne sur la marge de manœuvre que je peux faire, moi, avec les élèves.
Oui, donc c'est vrai, donc c'est ça comme dans tous les secteurs, donc tout ce que, voilà, que ce soit donc, par rapport à CPE, que ce soit aussi par rapport à CEO, même par rapport à...
Tous les personnels voilà, de l'éducation nationale sont confrontés à ces problèmes.
Mais tout, même ceux qui sont de l'extérieur ou de l'intérieur...
Même l'assistant social voilà, ou l'infirmière, c'est pareil.
Tout est limité, c'est aussi... Donc on voit, c'est surtout, moi je le vois, parce que je les rencontre tous, donc au niveau des discussions, au niveau d'échanges, certains projets aussi. Et c'est vrai, donc c'est tellement y a moins de temps, il y a moins de possibilités pour vraiment se consacrer donc, à telle tâche que parfois, bah, obligé donc, d'abandonner donc, les possibilités, les moyens pour vraiment écouter, pour aussi donner, donc aller se déplacer, pour aussi parfois donc, donner aussi le temps pour ouvrir un dossier, l'étudier de A à Z, de rencontrer, de discuter, tout ça, ça devient plus difficile pour tout le monde. Et c'est vrai, donc quand c'est impacté par l'enseignant, bah, il est impacté aussi pour la suite, pour le reste qui est autour. Hein. Voilà, donc pas seulement pédagogique, mais aussi donc, voilà, donc, l'orientation, l'écoute, voilà, la santé, tout ça. Ça joue. Et c'est vrai, donc c'est ça qu'on ne comprend pas, qu'est-ce que ça va, où ça va y aller. Donc,
c'est le problème de cette vision scolaire. On n'a que, et on ne perçoit les choses qu'à travers la vision scolaire. Pourtant, ça reste un humain. Hein. Il y a tout un temps de sa vie où il n'est pas à l'école, il fait d'autres choses. Et c'est peut-être ça qu'on ne met pas assez dans le cadre scolaire.
Oui, donc c'est le cadre. Et est-ce qu'il y a des anecdotes ou des choses comme ça que parfois, par rapport à une réaction de parents, d'élèves, surprise de leur réponse ou de leur choix alors que c'est impossible donc.
Oui non, c'est toujours compliqué parce qu'il faut je me donne aussi cette mission à un moment donné, il faut quelqu'un qui leur dise les choses quand ça va pas le faire et j'ai eu le cas récemment, une maman qui ne souhaite pas que son enfant qui est en 3e SECPA poursuive sur une voie professionnelle en bac pro, elle aimerait faire une formation à domicile. Et j'ai essayé de lui faire comprendre qu'entre une formation à domicile et des cours comme on les connaît en SECPA, il y a une grosse, grosse différence et que ça risquera de demander beaucoup de discipline, d'organisation. Et donc j'ai demandé à la fille, l'élève en question, si elle était intéressée, si elle se voyait faire ça. Et elle ne semblait pas tout à fait convaincue par ce projet-là. Elle se verrait plus dans un statut scolaire où on l'accompagnerait. Et la maman n'était pas convaincue parce qu'elle avait d'autres arguments qui amenaient qu'elle avait effectivement sa fille avait quelques problèmes de comportement et que la maman avait un peu marre de gérer tous ces problèmes de discipline, d'être convoquée à l'école, donc elle préférait mettre un peu son enfant à l'écart et plutôt gérer ça. Et à un moment donné l'entretien s'est un peu retourné où elle m'a dit écoutez, moi de toute façon vous répondez pas à ce que j'attends, je m'en vais voir quelqu'un de plus compétent. Et en même temps, je sais qu'elle ne trouverait pas forcément la réponse qu'elle attend. Elle l'attendait de moi que je lui dise ce que vous proposez comme projet, c'est super. En soi, c'est super. Et au moins, c'est une maman qui est présente, qui soutient sa fille. Un parent, il fait toujours mieux pour son enfant. Et ça, j'en suis convaincu, dans les limites qui sont les siennes. Donc, elle pense au mieux. Mais concrètement, dans la réalité, pour moi, voilà, avec les informations que j'ai et le recul que j'ai sur ce genre de situation, c'est quelque chose qui risque de ne pas passer. Donc je pense que cette élève-là sera amenée à la revoir l'année prochaine, dans un contexte de décrochage scolaire. Et en même temps, il y a peut-être besoin aussi de passer par cette expérience pour refaire quelque chose avec. Et ça, c'est possible, mais c'est frustrant, oui, de s'entendre dire qu'on n'est pas forcément compétent, qu'on n'a pas apporté les réponses. Oui, c'est pas parce que je vais pas forcément dans votre sens que j'ai pas les réponses, mais... je lui en veux pas, je comprends tout à fait sa démarche. Et donc, ouais, c'est deux genres de petits trucs comme ça, des fois, qui sont un petit peu particuliers.
Alors, c'est donc faire passer des messages aux élèves de lycée professionnel. Quel message ou des conseils ou à leur faire passer, d'informations.
Je pense que le plus difficile, si moi je crois en mon parcours scolaire, ça a été de trouver les informations à un moment donné, de trouver un professionnel qui était capable de prendre un temps, vraiment de se poser, de dire ok, t'as besoin que je sois disponible, alors je vais te donner un temps. Pas juste entre deux portes, vraiment de dire ok, on va se prendre 10 minutes à un moment donné, on va discuter vraiment de ce que t'as envie de faire et de quoi tu as besoin. Et donc ça serait ce que je mettrais en avant principalement, c'est prenez le temps à un moment donné de vraiment prendre le temps finalement de rencontrer un professeur qui peut vous accompagner, alors que ça soit votre professeur principal ou que ça soit quelqu'un d'autre, peu importe, mais quelqu'un que vous sentez qu'il y a un vrai feeling, qui est plus que du cadre scolaire, où il y a vraiment, vous pouvez avoir confiance en cette personne pour parler un peu de votre orientation. N'hésitez pas à pousser des portes. Moi j'ai appris très tard l'existence du CIO et c'est dommage, ça aurait peut-être aidé avant, parce que je me suis cherché pendant longtemps. Moi je suis arrivé en terminale, je savais toujours pas ce que je voulais faire après le bac non plus. Je me suis réorienté, ça aussi j'aimerais passer ce message là, que c'est pas parce que j'ai fait un an d'hôtellerie-restauration. C'est quand même un petit peu particulier.
Tout à fait différent.
J'ai fait un bac ES, qui vont disparaître, mais voilà, j'ai fait un bac ES, donc économie et sociale. Ensuite, j'ai voulu faire de l'hôtellerie-restauration, parce qu'au niveau familial, mes grands-parents étaient de ce milieu-là et j'avais envie de le découvrir. Et ça, c'était mon histoire personnelle. Donc, ça n'a pas forcément été compris par l'équipe de mon établissement, mais ça les regardait pas, c'était mon choix. Je l'ai fait. Bon, clairement, je me suis vite. Pas senti à ma place et je suis reparti sur autre chose. Et entre le moment où j'ai arrêté ma formation en hôtellerie-restauration et mon choix de psycho, il s'est passé 2 semaines. Donc ça a été très très vite. Et je suis arrivé là en me disant bon, on va penser à Papa Freud et les classiques de la psycho. Et on m'a dit non, mais la psycho, c'est Freud, c'est 5%. La psycho, c'est beaucoup plus large que ça. Et petit à petit, je me suis dit ah, mais ça m'intéresse. Et ça, c'est bien. Et c'est parce que j'ai été chercher à un moment donné, j'ai été prendre un bouquin et me dire bah, ok, donc je connais ça. Et en tout cas, c'est ce qu'on me vend de ce parcours-là ou de ces connaissances-là. Mais c'est toujours plus large que ça. À un moment donné, il faut aussi faire des choix. Les professeurs sont amenés à faire des choix. Si on pouvait leur laisser la liberté de présenter ce qu'ils veulent. Il n'y a pas deux professeurs qui feraient le programme de la même façon. Moi, j'ai le souvenir d'une professeure d'allemand en troisième, quatrième qui a dit « Je pourrais vous faire le programme classique hein, d'allemand en vous apprenant Noël et puis Halloween. Mais clairement, quand je vous lâche en Allemagne, ce n'est pas ça qui va vous aider à survivre. Elle a volontairement pas suivi le programme. On a appris les chiffres, on a appris les structures de phrases, etc. Mais selon son format à elle. Et en fin d'année, elle nous a lâchés à Karlsruhe en Allemagne. Elle a dit « Bon, ben, ce soir à 18h, ça a posé problème à personne, on savait se débrouiller parce qu'elle savait de quoi on avait besoin sur le coup. Et je pense que c'est ça qui est compliqué pour les élèves, c'est qu'on vous apprend des choses et vous comprenez pas forcément ce qu'on vous apprend, ça fait pas forcément sens, on voit pas le lien, et le parcours est construit de telle façon à ce que vous en comprendrez le sens mais bien plus tard. Et comme les maths, on dit voilà, c'est pratique et tout ça, on se rend pas compte, on dit bon, à quoi ça va me servir une fonction linéaire. Alors certes, ça sert pas dans tous les domaines du quotidien, mais il y a des moments donnés on dit ah, mais ça, en fait, ça, c'est à cette époque-là qu'on m'a expliqué comment je suis censé le comprendre, ce truc-là. Ouais, mais on part pas de l'expérience professionnelle qu'on vient appliquer d'une formation. On part d'une formation et après on dit on va se former. Pour autant, jamais rien n'est fermé, quoi. Tout est possible.
Oui, donc voilà, c'est ces messages-là que vraiment doivent entendre les élèves et aussi les parents. Ne pas rester enfermé, mais aussi décider à la place de l'enfant.
Non.
Donc, et aussi, si l'enfant il n'a pas la capacité ou encore la maturité pour choisir, il faut trouver d'autres ressources pour l'aider ou d'autres personnes qui peuvent aussi le convaincre.
C'est
tout ça, c'est ça qu'il faut que les parents comprennent. Et aussi le jeune, c'est aussi, donc il y a les parents, il y a aussi le système de l'éducation nationale, il y a plusieurs structures. Donc il ne faut jamais compter que sur une seule structure, bien voilà, c'est qu'il y a que le professeur principal ou il y a que le lycée, donc le reste voilà, ils décident, c'est bon, ou bien pareil les parents, c'est voilà comme l'exemple qui a été fait, il faut pas qu'ils décident voilà et sans demander l'avis de l'enfant, etc. Et c'est vrai tout ça. Et aussi il faut donc voilà une ouverture que tout, chacun doit faire un effort voilà et dire voilà, même si donc c'est difficile maintenant. C'est compliqué pour tout le monde, mais il faut que chacun essaie de donner ce qu'il peut, même si parfois on sort Voilà, de la norme.
En même temps, les parcours, ce qu'on appelle les parcours en one shot, un parcours parfait, un parcours linéaire, il n'y en a pas tant que ça. Pour moi, il n'y a pas d'erreur de parcours. C'est bien parce que j'ai fait d'hôtellerie restauration que quand j'ai fait mes études, j'ai pu avoir un petit boulot à côté. Et je suis très content parce que du coup, j'ai un profond respect pour tout ce qui est, par exemple, les métiers de la restauration, parce que je trouve que c'est des métiers très compliqués. Et je suis content d'avoir eu cette expérience et je considère pas ça comme une erreur de parcours. C'est une époque, une période où j'ai eu besoin de me chercher, j'ai eu besoin de prendre du temps pour me trouver parce qu'on m'avait jamais accompagné au niveau scolaire ou j'avais jamais eu les réponses que j'avais besoin. Donc non, effectivement, il y a ça. Après, ça veut pas forcément dire toujours aller dans mon sens. Il y a des gens qui m'ont clairement dit sur mes projets que j'étais complètement à côté de la plaque. Ça a pas été agréable de l'entendre, mais il fallait l'entendre. Parce que je vous disais effectivement que les parents doivent aller dans le sens de l'enfant, de l'accompagner, mais ça veut pas forcément dire soutenir tous ses projets. Des fois, il y a des choses qui... Clairement, ça ira pas. Moi, j'ai eu un gamin en troisième avec 7 de moyenne qui m'a dit « je veux devenir avocat ». J'ai dû lui faire comprendre que ça allait être un petit peu compliqué en termes de poursuite d'études, mais j'ai essayé de trouver un compromis entre ce qu'il voulait faire et des orientations dans le métier du droit.
Et c'est pour ça que dans ce projet radio, j'ai demandé donc aussi le témoignage des élèves de terminale. C'est pour ça que j'ai choisi des terminales de lycée professionnel, que ce soit commerce ou usinage ou élect ou ATMFC2. Et c'est vrai, quand on les entend, c'est vraiment, on apprend plus que parfois, donc de passer par par les enseignants, par des professionnels, parce que leur parcours, chacun vraiment a un parcours différent. En plus, le choix, parfois ça donne vraiment l'envie à d'autres de dire « Ah, c'est comme ça, je vais faire pareil ». Voilà, donc j'ai vécu de la même façon au niveau du choix, au niveau aussi de changer d'avis, etc. Et pourtant, ils se sentent bien, donc même s'il y a parfois différents parcours et aussi au niveau du choix, d'orientation, on change même parfois au dernier moment. Alors que parfois même, des choses on croit au départ que c'est vraiment notre avenir, c'est notre métier. Et à la fin, on se rend compte seulement parce qu'on a entendu parler. On a vu, on a essayé dans un stage, c'est comme ça.
Un reportage.
C'est vraiment par rapport à cette diversité donc, de témoignages et aussi donc, variété de présentations, de parcours, etc. Ça nous renforce encore plus, ça nous donne encore plus parfois de dire, c'est qu'il faut réagir autrement. Donc que ce soit tous, et c'est vrai, c'est ça qu'il faut qu'on essaye donc de travailler beaucoup dans l'éducation nationale, le débat, les échanges, l'écoute.
C'est même ce que je fais quand j'ai un élève en entretien. Dans ma structure d'entretien, c'est toujours de quoi tu as besoin, dans quelle classe tu es, de quoi tu as envie. Et à la fin, je leur dis toujours, donc ça c'est ton projet à l'heure actuelle. Soit il va pas changer et tu vas l'investir et ça va être ton projet. Et si ça se trouve, la prochaine fois qu'on se revoit, t'as changé de projet. Et pour moi, c'est ok, y a pas de souci. C'est ça aussi, c'est ok si ton projet il change. Moi, je m'adapte, c'est pas le souci.
Pour terminer, le dernier mot à dire, c'est résumé de tout par un mot,
ceux qui sont perdus au niveau de l'orientation, vous pouvez venir prendre rendez-vous avec moi. Je reste disponible dans la mesure du possible pour vous accompagner. Et pour les restes, je vous souhaite bon vent, parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et plein de bonnes choses vous attendent, je pense.
Vraiment, merci beaucoup. Donc vraiment, c'est la parole que tu voulais transmettre, les exemples. Et ça montre vraiment le travail qui est effectué. Et surtout, leur dire que vous êtes toujours là. C'est vrai, c'est pas parce que le local est fermé que il n'existe plus. Donc le groupe est toujours présent et il faut essayer. Quand on a envie d'obtenir quelque chose, on veut réussir, on veut obtenir une réponse, on a toujours la possibilité, les moyens, ils sont toujours en face de nous. Mais à nous de s'approcher, de les toucher, et après on sent que c'est pour nous. Mais il ne faut jamais attendre que ça vienne vers vous. Mais c'est à vous de faire le premier pas. Les autres, ils vont venir te rencontrer, te voir. Merci beaucoup.
Merci
et
à vous.
J'espère. Donc là aussi, par rapport à ce que je viens de dire, donc aussi, le CDI, il est là aussi, pour aussi faciliter ces informations-là et aussi aider les autres services. Donc d'avoir au moins l'harmonie au niveau des échanges et surtout faire transmettre ces paroles et ses messages. Et merci beaucoup.
Merci, bonne journée à vous.
Merci, et la pause, et c'est encore toujours d'autres rencontres, d'autres témoignages, jusqu'à
17h à Radio VOC.